mercredi le 5 mai 2021. Vous écoutez En Zone Neutre. Oh yes, mercredi le 5 mai. Vous écoutez En Zone Neutre. Aujourd'hui, on parle de plusieurs trucs. Défaite des Blue Jays. Défaite des Blue Jays hier soir face au Ace d'Oakland. Et bougez pas deux secondes, on me voit pas. Hey, salut, salut tout le monde. Défaite des Blue Jays, on en parle. Les Rangers de New York sont tannés de George Parros. Le descripteur des matchs des Voltigeurs, on va jaser de ça. On va jaser aussi Éric Gagné dans le baseball qui veut lancer aux prochaines Olympiades. Ben oui. On jase de tout ça ce matin. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour rappeler que le podcast est une présentation de l'Auberge et Club de Golf Héritage à Notre-Dame-de-la-Paix en Outaouais. Réservez vos temps de départ 819-522-6622. Il va y avoir un peu de pluie. Là, c'est pas terminé. Il pleut encore. Donc, ça va être bon pour le gazon, ça va être bon pour le terrain. On va voir en fin de semaine les résultats de tout ça, mais ça devrait être génial. Donc, comme vous pouvez voir en arrière-plan, l'Auberge et Club de Golf Héritage, c'est un chalet, une auberge en bois rond avec des chambres à louer. Une super salle de réception si vous avez des mariages à célébrer, des événements spéciaux. On devrait être en mesure de pouvoir reprendre un cours plutôt normal de la vie dans les prochains mois. Donc, pensez-y déjà. Et superbe track de golf, un parcours de championnat, bien sûr. Tout en forêt, dans la fameuse... dans la vallée, là, je sais pas comment le dire, là, mais c'est assez montagneux dans ce coin-là. Mais c'est le fun, c'est très, très naturel comme terrain de golf. Ça a été bâti en pleine nature. Donc, encore une fois, prenez vos départs 819-522-6622. Denis et sa gang sont super cool, là, vous allez voir. Ils vont vous accueillir des cartes flambant en eux en plus. C'est génial. Un endroit génial. Ce matin, je change de studio. Je m'en vais au Yankee Stadium. C'est ça. Tant qu'à avoir un green screen, on va l'utiliser. Parce qu'on parle de baseball en premier lieu. Donc, défaite des Blue Jays hier, 4-1 contre les Ace d'Oakland. Les Ace d'Oakland qui sont repartis de plus belle. Les Ace qui avaient eu tout un début, pas un début de saison, mais parce qu'il y avait eu un début de saison so-so, mais qui sont revenus un petit peu avec une séquence de plusieurs victoires. Et là, viennent d'en aligner 3 de suite encore une fois. Donc, les Ace, bougez pas, je vous sors ça. Le partant des Ace hier, le partant des Ace hier, Irvin, les Blue Jays ont frappé seulement 3 coups sûrs dans le match au complet, ont réussi à marquer un point, mais ça a été toute une performance de Irvin qui est à 3 victoires, 3 défaites, moyenne de points mérités de 3.09, mais hier était tout feu tout flamme, rien donné aux Blue Jays du tout. Les Ace ont marqué 4 points en deuxième manche et c'était déjà terminé ce match-là, donc les Ace, une grosse équipe quand même, les Ace. On va en parler. On va parler de baseball beaucoup jeudi soir au podcast En Zone Neutre avec mes invités de Passion MLB parce que on n'a pas le choix de parler d'un gars qui s'appelle Kevin Kiermaier qui joue avec les Rays de Tampa Bay. Et vous irez voir, je vais essayer peut-être de partager le vidéo, mais Kiermaier qui est allé voler une balle au champ gauche au voltigeur de gauche à Rosarena. À Rosarena, pas très facile à dire, qui est allé voler une balle complètement dans le champ gauche à son coéquipier, en fait, pour pouvoir lancer par la suite au marbre, tu sais. Et le gars s'est justifié en disant qu'il était un des meilleurs voltigeurs du baseball majeur, sinon le meilleur voltigeur, et que ce genre de jeu-là, quand il peut attraper la balle est à lui. Donc, je me demande si ça, c'est la même vision que son entraîneur a de lui. J'en doute très, très, très fortement. Mais vous irez voir ça. Je vais essayer de poster le vidéo, mais on va en parler, c'est certain, jeudi soir, avec la gang de Passion MLB. comment ce gars-là peut penser jouer en équipe avec ses coéquipiers alors qu'il va chercher des balles complètement, c'était complètement fou. Là. Arrows Arena était sous la balle lorsque la balle a été frappée, ou pratiquement. Donc, cette balle-là aurait dû aller à Arrows Arena, qui représente aussi l'avenir des Rays. Tu sais, c'est un joueur qu'on a découvert dans les séries l'année passée pas mal, et c'est probablement un des joueurs clés de la formation qui se fait voler une balle comme ça par son coéquipier. Et il y a une loi non écrite dans le baseball qui dit que si le joueur de champ centre peut attraper la balle, c'est probablement lui qui va faire le jeu. Et la raison est simple, c'est que le joueur de champ centre est habituellement le mieux placé, le mieux positionné pour... excusez-moi, pour le jeu qui va arriver par la suite. Donc, un relais ou peu importe, a le jeu devant lui, voit tout dans le fond, et c'est lui qui est le, si on veut, qui est le moins loin de chacun des buts lorsqu'il doit ramener la balle au champ intérieur. Donc ça, c'est une loi non écrite du baseball qui dit que si le voltigeur de centre peut faire l'attraper, ensuite de ça, il est bien positionné pour le reste du jeu. Tu sais, le jeu ne s'arrête pas quand il capte la balle. Donc ça, c'est une loi non écrite dans le baseball majeur. Puis j'ai bien hâte de débattre ça parce que je pense que ça va nous amener sur un sujet avec Passion MLB de les lois non écrites dans le baseball majeur. Est-ce que ça existe encore et est-ce que ça devrait être changé parce qu'on voit des défensives spéciales maintenant dans le baseball majeur, donc des shifts qu'on appelle. Donc tous les joueurs se retrouvent sur le même côté parce que selon la moyenne au bâton, selon les statistiques du frappeur en question, s'il a tendance à frapper toujours de son côté, donc par exemple pour un frappeur gaucher dans le champ droit, tout ça. Est-ce que avec ces formations qui sont très, très adaptées aux frappeurs, tout ça, est-ce que les lois non écrites du baseball changent? Par exemple, le jeu en défensive à l'intérieur de l'avant-champ, généralement, on dit au lanceur, touche pas à ça. Est-ce que le lanceur peut devenir maintenant une pierre angulaire du jeu défensif? Est-ce que ces lois non écrites-là peuvent tomber? Et bon, le fait que ce soit le joueur de champ centre qui capte les balles pour le jeu d'ensuite, est-ce que ça a encore lieu d'avoir cette loi non écrite là ou cette stratégie-là. Donc, on va en parler avec Passion MLB jeudi soir. Ça va être super intéressant pour les passionnés de baseball. Là, soyez là, on va jaser de ça, c'est certain. Dans le joli monde du hockey, c'est pas les matchs hier qui ont retenu l'attention, mais c'est plutôt les Rangers de New York qui sont allés d'un statement, là, un communiqué de presse déplorant la mesure... La mesure restrictive, mais on a ça facile au Québec en ce moment, les mesures restrictives. Parce que Tom Wilson est allé frapper Artemi Panarin, et Panarin, qui est un joueur vedette, est terminé pour la saison, donc avec les Rangers. Et c'était un coup salaud, comme Tom Wilson est habitué de le faire. Donc Tom Wilson, joueur des Capitals de Washington, et c'est un récidiviste, donc il a été déjà suspendu et tout ça. Et lorsque c'est tombé la sanction, dans le fond, au joueur, ça a été seulement une amende de 5 000 $, ce qui est l'équivalent pour n'importe qui d'avoir un ticket de parking de 42 $, mettons, à peu près, là, si on veut un ordre de grandeur. C'est à peu près ça. Donc, une amende de 5 000 $ pour Tom Wilson. Et là, les Rangers... Au lieu de garder la ligne de la Ligue, là, on s'entend, là, les gouverneurs de la Ligue nationale, là, c'est du monde qui se tiennent bien, bien, bien serré, ça. Habituellement, il n'y a pas. Les équipes ne vont pas critiquer le travail de la Ligue. Et ça, c'est débattu à l'entre-saison dans des réunions, soit avec les directeurs généraux, avec les gouverneurs des équipes de la Ligue, etc. Là, les Rangers sont allés complètement champ gauche et ont décidé justement d'argumenter et de demander la démission de George Parros. George Parros qui a joué pour les Canadiens un petit peu, mais qui a joué surtout pour les Ducks d'Anaheim et qui était un dur à cuire. Donc, c'était un batailleur, c'était un bagarreur. Et c'est lui qui est en charge de la sécurité des joueurs, du département de la sécurité des joueurs, qui donne les sanctions justement pour les suspensions, les amendes, etc. aux joueurs pour qu'est-ce qui se passe dans le fond sur la glace. Et George Parros, c'est lui qui a, c'est peut-être pas lui personnellement, mais je veux dire, c'est son département qui a décidé de donner une amende de 5 000 $ à Tom Wilson, ce qui est complètement ridicule. Et les Rangers sont allés d'un statement, donc ils ont publié sur leur site web et un peu partout sur leurs médias sociaux une lettre qui demande la démission de George Parros. Et force est d'admettre que tout le monde est sympathique à la cause des Rangers, ce qui me fait penser, puis ce qui m'amène vers cette phrase-là, mais c'est probablement la seule fois que les Rangers de New York font l'unanimité, peut-être depuis Mark Messier, quand Mark Messier en 94 avait promis une victoire, et là, tout le monde, les Rangers suscitaient l'intérêt partout. Donc, c'est peut-être la première fois depuis Mark Messier, justement, que les Rangers suscitent l'attention autant dans la Ligue nationale. D'un côté, opinion personnelle, je suis entièrement d'accord avec les Rangers. C'est complètement stupide qu'un joueur récidiviste obtiennent une amende de 5 000 $ pour un coup salaud. Puis c'est, tu sais, le département, on s'entend, le nom du département, c'est le département pour la sécurité des joueurs. Et je ne crois pas que les joueurs vedettes avec des amendes de 5 000 $ se sentent tant que ça en sécurité quand ils foulent la glace des arénas de la Ligue nationale. Donc, à suivre, mais j'ai comme l'impression que la Ligue nationale va réagir peut-être aujourd'hui à ce statement-là. Est-ce que la Ligue nationale va réprimander les Rangers pour qu'est-ce qu'ils ont publié, ou est-ce que la Ligue nationale va choisir de congédier George Parros? J'en doute, parce que Gary Bettman, Bill Daly, etc. n'ont jamais vraiment été pour les coups d'éclat, autrement dit. Donc, j'ai bien l'impression que le gouverneur ou l'état-major des Rangers va se faire appeler. Il va avoir une discussion et il va avoir probablement un statement conjoint de la Ligue nationale et des Rangers pour calmer le jeu. Là, ce serait le style de Gary Bettman et de la Ligue nationale, mais entièrement d'accord avec les Rangers. Complètement ridicule de voir ça. Dans un autre ordre d'idée, bon, ben, les Blue Jays, hier soir, avec cette défaite-là, se retrouvent à 14 victoires, 14 défaites, jouent pour 500 à 3 matchs de la tête dans l'Est de l'Américaine. Donc, c'est super intéressant. Puis, je regardais le classement dans le baseball majeur hier, puis, ben, ce matin, en fait. Et dans la plupart des divisions, c'est très serré. Il n'y a pas d'équipe qui semble vouloir s'en aller tout bonnement vers un championnat dans cette division. Si on regarde par exemple l'ouest de la nationale, où est-ce que les Dodgers, les Padres et les Giants, parce qu'il ne faut pas oublier les Giants, qui sont ce matin en première position de cette division-là. Les Giants, c'est une fiche de 18 victoires, 12 défaites, alors que les Padres et les Dodgers suivent en deuxième et troisième position avec 17 victoires, 14 défaites chacun. Un match et demi, donc c'est probablement la division la plus intéressante dans le baseball majeur en ce moment. Mais si on regarde au niveau de la centrale de la nationale, les Cards de Saint-Louis, qui sont à 17 victoires, 12 défaites, suivi des Brewers à 0.5 matchs, 17 victoires, 13 défaites. Donc, il y a des courses. Et les Cubs et les Reds qui sont à 3.5 matchs, là, à 3 matchs et demi des Cards aussi. Donc, il n'y a rien de coulé dans le béton. Donc, il y a des belles luttes. Puis, vous allez me dire, il y a à peu près 30 matchs de disputés dans la saison. Puis, sur 162, on s'entend, là, ça va changer. Ça se peut que des équipes partent tout seuls, puis que ça se termine comme ça dans des divisions. Mais pour l'instant, là, les divisions sont hyper, hyper, hyper serrées. L'Est de la Nationale, ça, c'est les Phillies, les Nationals, les Mets, les Braves d'Atlanta et les Marlins de Miami. Les Marlins sont derniers dans cette division-là à 2 matchs de la tête. Donc, 15 victoires, 15 défaites pour les Phillies, 12 victoires, 13 défaites les Nationals, 11-12 pour les Mets, 13-16 pour les Braves, qui est probablement la déception dans cette division-là, les Braves, qui n'ont pas un début de saison incroyable. Et à notre discussion avec Passion MLB avant le début de la saison, je rappelle que Charles-Alexis Brisebois et Pascal Harvey avaient choisi les Braves pour remporter la Série mondiale. Et ce seront mes deux invités cette semaine de Passion MLB sur le podcast live jeudi soir. Donc, on va en discuter de ça. Est-ce que les Braves sont une déception après 30 matchs? On va leur poser la question. Les Aces d'Oakland dans l'ouest de l'Américaine, les Aces d'Oakland en avance 2 matchs sur les Mariners de Seattle. Et ça, c'est surprenant. Les Astros se retrouvent à 3 matchs. Et by the way, hier soir, il y avait le match Yankees-Astros. C'était le premier match au Yankee Stadium avec du public depuis justement les fameuses accusations de tricherie des Astros, et les partisans des Yankees s'en sont donnés à cœur joie. Dans les gradins, il y avait des poubelles de lutte, comme j'appelle, des poubelles molles là, en aluminium. Les gens cognaient avec tout ce qu'ils pouvaient là-dessus. Quand José Altuve se présentait au bâton, c'était cacophonique dans le stade, et je rappelle que c'était loin d'être sold out. Il y a seulement un nombre limité quantité de billets accordés pour ces matchs-là. Donc, c'était cacophonique. Les gens huaient José Altuve, notamment, mais je pense que c'est ça. Ils ont choisi un bouc émissaire et c'était Altuve. C'était magique de voir ça. Là. Je suis peut-être plus le grand fan des Yankees que j'ai déjà été parce que j'ai déjà trippé bien raide sur cette équipe-là dans le temps de Bernie Williams, des Jeter, Posada, et Mariano Rivera, etc., Andy Pettit. C'était une belle formation dans les années 90-2000. Mais là, force est d'admettre que je m'en suis donné un petit peu à cœur joie à voir Altuve se faire ruer comme ça hier. La division centrale de l'Américaine, les White Sox, avec les surprenants Royals de Kansas City, 16 victoires, 12 défaites, et suivent de très près les Indians de Cleveland à un match de la tête. La déception dans cette division-là, c'est probablement les Twins Minnesota qu'on voyait probablement remporter ou du moins peut-être en deuxième position de cette division-là. Présentement, on se retrouve à 5 matchs de la tête avec une fiche de 11 victoires, 17 défaites. Donc, on est loin des Twins qui ont bien fait l'année dernière, justement. Et on termine avec justement l'Est de l'Américaine. Les Blue Jays se retrouvent avant-dernier, 3 matchs de la tête, comme j'ai dit tantôt. Les surprenants peut-être pas si surprenants, Red Sox se retrouvent à 18 victoires, 12 défaites en tête à 2 matchs et demi, les Yankees et les Rays de Tampa Bay. Donc, c'était hyper serré la semaine dernière dans cette division-là. Les Red Sox ont aligné quelques victoires, les Yankees aussi, les Yankees qui ont gagné leurs 4 derniers matchs. Donc, les Yankees reprennent à un certain moment donné. Les Yankees étaient derniers de la division et même derniers du baseball majeur. Donc, voilà, c'était le petit tour d'horizon, mais c'était super intéressant de voir à quel point les standards qu'on avait en tête au début de saison, c'est jamais ce qui arrive en réalité. Là, les prédictions qu'on peut faire, ça change assez rapidement. J'y vais un petit peu rapidement. Je vais faire un mea culpa. Hier, dans le podcast, j'ai mentionné que les Jets et le Canadien étaient à 2 points de différence. Mais non, ils sont à égalité, en fait, présentement. Les Jets demeurent en 3e position parce qu'ils ont plus de victoires que le Canadien. Donc, les deux équipes ont le même nombre de points, 3e et 4e dans la division Nord. Et ce soir, ça reprend de plus belle. Les Canadiens affrontent les Sénateurs d'Ottawa. Est-ce que le Canadien va l'emporter contre sa bête noire ou est-ce que les Pesky Sens vont continuer d'embêter les équipes qui essaient d'améliorer leur sort en fin de saison comme ça? On se rappelle, les Jets ont goûté à la médecine des Sens plus tôt cette semaine ça aide le Canadien, mais là, le Canadien se retrouve face aux Sens. Est-ce que ça va être la même histoire ou le Canadien peut encore battre les Sens comme il l'a fait la semaine passée? C'est sûr que si le Canadien bat les Sénateurs, ils améliorent beaucoup leur sort. Les Jets affrontent, si je me souviens bien, les Maple Leafs aussi. Donc, ça pourrait aider aussi le Canadien, une victoire des Leafs. À suivre, bien hâte de voir ça ce soir. Ça va être du bon hockey. Canadiens-Sénateurs, soyez là. Petite nouvelle dans le monde du baseball, encore une fois, Éric Gagné, hein, le Québécois qui a eu des belles années avec les Dodgers de Los Angeles. Éric Gagné qui avait participé à la Coupe du monde de baseball ou le World Baseball Championship, là, je ne me souviens pas comment on le dit en français, qui avait participé à cet événement-là pour le Canada et qui avait très bien lancé voilà, une coupe d'année. Et là, il s'entraîne, le beau Éric, il s'entraîne beaucoup parce qu'il aimerait participer aux Jeux olympiques avec Baseball Canada, donc avec la formation du Canada. Et Éric Gagné, qui est plus jeune, là, je ne me souviens pas quel âge exactement qu'il a, mais il s'accroche, il veut jouer de la balle, Éric Gagné, donc c'est beau de voir ça. Écoute, la formation canadienne, j'imagine, n'est pas garni de talents exceptionnels. Donc, Éric Gagné, c'est certain que s'il lance comme il est capable, s'il n'est pas blessé aussi, parce que, bon, on se rappelle, Éric Gagné avait un peu mis sa carrière de côté parce qu'il était magané solide, là, vraiment. Là, il disait dans son livre, justement, écrit par Martin Leclerc, qui est un bijou, ce livre-là, il disait qu'il n'était plus capable, à cause de maux de dos, de prendre ses enfants, même c'était trop ses enfants qui étaient en bas âge là, étaient trop pesants pour que son dos le supporte. Et bon, avec la réhabilitation, beaucoup de repos, puis tout ça, donner le temps à son corps de se guérir lui-même. Maintenant, il est en mesure de lancer, il est en mesure de jouer au baseball, d'entraîner, d'être un petit peu dans le baseball, justement, d'être impliqué dans le baseball. Donc, ce serait vraiment le fun de le voir et ça donnerait une visibilité surtout à la formation canadienne, là, parce que, bon, on s'entend, aux Jeux olympiques, c'est pas les joueurs du baseball majeur qui vont s'y retrouver parce qu'il y a une saison de baseball majeur en ce moment. Et les Olympiques vont avoir lieu cet été en pleine saison du baseball majeur. Donc, il n'y aura pas de joueur de la Ligue majeure qui va se retrouver là. Donc, Éric Gagné devient une figure intéressante. Et s'il est capable de lancer, ne serait-ce que à 75% de ce qu'il nous a déjà montré, ça va être quelque chose d'intéressant. Je finis en parlant du hockey junior un peu. Il y a eu, on le sait, les médias sociaux, ça peut être ravageur. Et il y a eu une montée un petit peu plate là, sur les médias sociaux contre le descripteur des matchs des Voltigeurs de Drummondville, alors que le gardien de but des Remparts de Québec a marqué un but dans un filet désert pendant les séries, la série Remparts-Voltigeurs. Et bon, le descripteur des matchs des Voltigeurs a été plutôt sobre dans la célébration de cet exploit-là. Et bon, les Remparts avaient mis ce vidéo-là sur leurs médias sociaux et tout ça. Et ça a créé une vague de commentaires stupides, tu sais, des menaces à l'endroit de ce commentateur-là dont je ne connais même pas le nom. Et je ne veux pas associer de nom à ça, non, nécessairement, mais plutôt au fait que faut faire attention avec les médias sociaux de nos jours parce que ça a monté vraiment très haut, cette histoire-là. Et les Remparts ont été obligés justement de publier un message pour demander à leurs partisans de cesser d'injurier justement le descripteur en question. Les Voltigeurs ont aussi écrit un statement, là, un communiqué pour mentionner que il était derrière le commentateur et qu'il n'allait pas accepter ses commentaires ou ses insultes, ces menaces-là qui sont faites à son endroit, etc. Et force est d'admettre qu'il faut que ces formations-là soient derrière justement le descripteur et ils doivent informer les gens qu'il faut pas on s'entend là, il aurait pu écouter ce match-là sur mute. Et le fait que le descripteur capote pas pour un but qui est marqué contre l'équipe qu'il paye, tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, t'es pas obligé de capoter non plus. Là, je veux dire, quand j'ai vu Martin Brodeur marquer un but, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, mais j'ai pas écrit à tout le monde pour le dire non plus. Là, donc, voilà, mais c'est ça. Tu sais, faut être quand on suit le sport, puis je vais finir avec ça aujourd'hui, mais quand on suit le monde du sport, faut se rappeler que c'est du divertissement, entre autres, pour nous. C'est le métier des gars qui le pratiquent. C'est une vache à lait de cash pour la plupart des propriétaires. Mais nous, comme partisans, on doit être impliqués d'une manière correcte, comme si on écoutait n'importe quoi, un film, un divertissement quelconque. C'est du divertissement pour nous autres. Et quand ça devient maladif, faut arrêter de l'écouter. Donc voilà, et sur ce, ben, je vous souhaite de passer une excellente journée. J'espère que vous allez passer du bon temps, et je remets ma petite toune. Yes! Bonne journée tout le monde, on se reparle demain matin, et on se reparle aussi demain soir pour En Zone Neutre Live. On va parler encore une fois de baseball avec Passion MLB, et je vous réserve quelques surprises pour l'émission. All right, ciao tout le monde!